VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Les conservateurs de la chancelière allemande, Angela Merkel, et les sociaux-démocrates ont trouvé après un dernier marathon nocturne de négociations, un accord pour former un gouvernement de coalition en Allemagne. Les médias allemands ont fait part d'un accord sur un contrat de coalition, affirmant que les derniers désaccords avaient été levés. Les derniers différends concernaient notamment la répartition des portefeuilles ministériels, la réforme de la santé, l'encadrement des contrats de travail à durée déterminée. La défense anti-aérienne de l'armée syrienne a annoncé aujourd'hui avoir intercepté et détruit des missiles israéliens tirés sur une position militaire près de Damas. Et selon l'AFP, de fortes explosions ont secoué Damas aux environs de 3h30 heure locale, c'est-à-dire 1h30 GMT. Par ailleurs, sur une autre question, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré aujourd'hui que tout indique que les autorités syriennes se livrent à des attaques au chlore. En ce moment, en Syrie, le président français Emmanuel Macron a tracé une ligne rouge sur cette question lors de son arrivée au pouvoir en mai 2017, promettant des représailles et une riposte immédiate de la France en cas d'utilisation d'armes chimiques. Ici, aux États-Unis, le Congrès américain va tenter d'adopter d'ici à demain, jeudi, une cinquième mesure temporaire de financement de l'État fédéral, faute de compromis avec l'opposition démocrate pour un budget annuel. Malgré l'adoption hier soir d'une autre mesure temporaire à la Chambre des représentants, le spectre d'un shutdown plane encore sur les agences fédérales. Abou Ramandia.
L'année budgétaire a commencé le 1er octobre dernier, mais les parlementaires se sont montrés incapables de s'entendre sur le montant et la ventilation des dépenses fédérales pour toute l'année. Le Congrès finance donc depuis toute l'administration fédérale, quelques semaines à la fois, au même rythme que la période précédente, sans pouvoir faire adopter les réformes de fonds voulues par l'administration Trump. En échange de l'augmentation forte du budget de la défense, la minorité démocrate exige que le reste des dépenses intérieures connaisse une hausse équivalente. Elle utilise également l'échéance pour tenter d'arracher la régularisation des centaines de milliers de jeunes sans-papiers, jusqu'à présent en vain. Les républicains peuvent passer le texte à la Chambre des représentants avec moins de difficultés, mais au Sénat, les démocrates disposent d'une minorité de blocage. Si le Congrès ne vote pas de crédit de fonctionnement d'ici jeudi minuit, l'État fédéral doit fermer et renvoyer chez eux les fonctionnaires jugés non essentiels. C'était déjà le cas pendant 3 jours en janvier. Le président Trump a déclaré qu'il préfère une fermeture du gouvernement s'il n'y a pas d'accord sur l'immigration.
Le vice-président américain Mike Pence a annoncé aujourd'hui à Tokyo que Washington s'apprêtait à dévoiler les sanctions économiques les plus dures jamais prises contre la Corée du Nord. M. Pence a fait sa déclaration aux côtés du premier ministre Shinzo Abe à l'issue des discussions sur la menace nord-coréenne.
VOA Afrique en direct de Washington.
Les États-Unis ont demandé au Cameroun de respecter les droits humains des 47 séparatistes anglophones, parmi lesquels leur leader, Sissoko Ahiok Tabe, extradé du Nigeria à la fin du mois de janvier. Brian Norbert, un porte-parole du département d'État, a expliqué à Anastasie Toudièche la position américaine sur ce dossier.
Des 47 Camerounais sont allés au Nigeria. Ils ont essayé des demandes d'asile au Nigeria. Donc, tout d'abord, les États-Unis exhortent le Cameroun et le Nigeria à s'acquitter de leurs obligations en vertu du droit international, c'est-à-dire de s'abstenir de renvoyer de force les demandeurs d'asile dans le pays d'origine. Tout simplement, ça c'est notre demande.
Le pouvoir camerounais considère désormais Sissoko Ahiok Tabe, chef de file du mouvement séparatiste de l'Ambazonie, et ses hommes comme des terroristes et donc qu'ils doivent répondre de leurs crimes devant la justice du Cameroun. Quelle est la position du département d'État sur cette question précisément?
Donc ça c'est une question de la loi camerounaise, donc c'est tout à fait normal qu'il y aura une procédure. Mais pour les États-Unis, ce que nous insistons, c'est que ça soit ouvert dans un état de droit.
La crise dans les zones anglophones s'est lentement muée en conflit armé, avec 22 soldats et policiers tués depuis novembre. Pensez-vous que la résolution du conflit peut être militaire?
J'imagine que non. Si nous parlons d'une solution, nous espérons que ça ne sera pas par la violence. J'aimerais adresser nos plus sincères condoléances aux familles des victimes. Comme vous avez dit, il y a plusieurs personnes qui ont été tuées dans cette violence. Les États-Unis condamnent les violences dans cette situation. Et nous imaginons que les autorités camerounaises vont chercher une solution qui n'est pas uniquement militaire, mais qui est politique, qui est dans un état de droit pour résoudre cette crise dans la région anglophone.
Comment les États-Unis réagiraient-ils en cas de procès qu'ils ne jugeraient pas équitable ?
Je ne peux pas imaginer, dans une situation hypothétique, notre réaction. Mais nous espérons bien que ça va continuer dans un contexte qui est dans l'état de droit et qui est transparent pour ces 47 Camerounais et pour d'autres détenus.
Un des porte-parole du département d'État, Brian Nobert. La mission de l'ONU au Soudan du Sud, la MINUS, a annoncé la libération aujourd'hui de plus de 300 enfants soldats dans le sud de ce pays ravagé par une guerre civile depuis décembre 2013. La libération de ces 311 enfants est la première phase d'un programme qui doit au total permettre la démobilisation de 700 enfants soldats dans la région de Yambio, soit 563 au sein des forces fidèle au président Salva Kiir et 137 au sein des forces rebelles de l'ancien vice-président Riek Machar. Un opposant kényan accusé de trahison a été placé mardi soir par la police dans un vol à destination du Canada alors qu'un juge avait ordonné qu'il soit présenté devant un tribunal de Nairobi mercredi matin. Homme politique n'occupant aucun poste officiel au sein de l'opposition, Miguna Miguna, qui dispose des nationalités kényanes et canadiennes, a été propulsé sur le devant de la scène depuis sa participation à l'investiture symbolique du chef de l'opposition Raila Odinga, c'était le 30 janvier dernier. Il est l'un des trois membres de l'opposition arrêtés pour avoir participé à cet événement. En Guinée, des scènes de violence ont été signalées dans le pays depuis les élections locales du 4 février à Kélinko, dans le Denguiraï, à 500 km de Conakry. 5 bébés ont péri dans un incendie provoqué par des manifestants. Le gouvernement déplore ces violences et appelle au calme. Les précisions de notre correspondant Zakaria Kamara.
C'est le ministre de l'administration et de la décentralisation qui fait l'annonce à la télévision nationale. Ce sont des agitateurs politiques, a-t-il précisé le général. Bourima Kondé hésite un instant, ensuite donne le bilan des violences à Dinguiraï. L'information n'est pas facile à donner, avertit le général ministre, avant d'ajouter qu'il s'agit de manifestants qui ont mis le feu aux cases à l'aide d'essence. 5 nourrissons sont morts, c'est le bilan le plus lourd depuis le début des violences post-électorales. Des violences, il y en a eu à Kindia, à Dabola au centre du pays, mais aussi dans la capitale où des policiers ont été blessés, leur véhicule incendié. Notre pays n'a pas besoin de violence, regrette le ministre Bourima Kondé, qui tente enfin de calmer. En matière électorale, il y a le volet contentieux. Faut-il encore attendre que les résultats soient connus, précise-t-il. Les derniers mots du ministre s'adressent aux candidats, dont certains n'ont pas hésité à annoncer dans les médias la victoire de leur liste. Conakry, Zakaria Kamara, VOA Afrique.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, critique la volonté des autorités du Burundi de réformer la constitution sans tenir compte des avis de l'opposition. Les précisions d'Ilidico.
Le gouvernement continue de chercher des amendements constitutionnels qui exacerbent les tensions avec l'opposition, a relevé Antonio Guterres dans un rapport remis aux 15 membres du Conseil de sécurité. Il a ajouté que plusieurs changements proposés à la Constitution ont été mis en cause par l'opposition, comme des tentatives du parti au pouvoir de consolider son emprise, pouvant créer des troubles. Le patron de l'ONU a estimé que même si le Burundi a un droit souverain à amender sa Constitution, un processus aussi important doit être conduit d'une manière inclusive avec les acteurs de la vie politique du pays. Le Burundi est plongé depuis avril 2015 dans une crise politique résultant de la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. Un référendum prévu en mai 2018 propose une révision de la constitution qui permettrait à M. Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, de convoiter à partir de 2020 deux autres mandats de 7 ans.
Un commandant libyen faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, la CPI, a annoncé s'être rendu aux forces loyales de l'homme fort de l'est du pays, le maréchal Khalifa Haftar. Ce commandant Mahmoud Al-Warfali fait l'objet depuis le 15 août 2017 d'un mandat d'arrêt de la CPI qu'il accuse de crimes de guerre. Il est soupçonné notamment d'être impliqué dans au moins 7 incidents en 2016 et 2017 au cours desquels il aurait lui-même tiré sur des civils ou des combattants blessés ou ordonné leur exécution. Jean-Roger Billon, fin de ce journal, le prochain dans 50 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.